Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi tous les deux mois à 19h sur le 93.9 FM.
Bonsoir à nouveau et bienvenue dans Sine qua non, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris qui vous fait découvrir un mois sur deux l'œuvre d'une ou d'un cinéaste à l'occasion d'une rétrospective ayant eu lieu récemment ou étant en cours à Paris et en Ile-de-France. Ce soir, on déroge quelque peu à la règle puisqu'il s'agit d'un épisode spécial consacré au Festival de la Cinémathèque. En effet, depuis mercredi dernier, le 11 mars, et jusqu'à ce dimanche 15 mars, a lieu à la Cinémathèque française la 13e édition de son festival annuel. Au programme de ce soir donc, nos retours à chaud sur le festival, notamment sur la séance d'ouverture et le film War Games de John Badham qui a été présenté, une interview de Enzo Durand qui est critique de cinéma et qui a participé à la programmation du festival et qui en présente d'ailleurs deux séances, dont on va discuter. Je suis Grégoire et j'ai le plaisir d'être accompagné pour ce beau programme par Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Grégoire, bonsoir à toutes et tous.
Par Pablo, bonsoir Pablo, qui réalise l'émission ce soir. Et par David, qui va nous faire le plaisir d'une chronique. Bonsoir David, et de quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler de cinéma international et de patrimoine ailleurs qu'à Paris en Ile-de-France, pour une fois.
C'est un très beau programme ce soir, comme toujours, et il nous tarde, comme toujours. Alors n'attendons plus, Sine qua non, 10e épisode, c'est parti !
Sine qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Vendredi tous les deux mois à 19h sur le 93.9 FM.
David, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu ce festival de la Cinémathèque ?
Oui, je veux bien, Grégoire. Donc la Cinémathèque française, que vous connaissez déjà si vous nous écoutez, organise cette année la 13e édition de son festival, donc du 11 au 15 mars 2026 à Paris, à la Cinémathèque certes, mais aussi dans 11 salles partenaires. L'édition 2026, elle met à l'honneur deux figures majeures du cinéma américain, l'actrice Debra Winger et le réalisateur John Badham. Debra Winger, elle est connue pour ses rôles et ses collaborations dans les années 80-90 avec Bob Rafelson, James L. Brooks ou Bernardo Bertolucci. Et du coup, elle fera l'objet d'une rétrospective de quelques films, accompagnée notamment aussi du documentaire Searching for Debra Winger de Rosanna Arquette sur son destin d'actrice. John Badham, c'est aussi un invité d'honneur. Il est quant à lui associé à plusieurs projections emblématiques, notamment de son film le plus célèbre, La fièvre du samedi soir, mais aussi de War Games. Il proposera également une carte blanche en trois films dont on pourra discuter si le cœur nous en dit. Le festival programme au total près d'une centaine de films répartis dans les salles partenaires, avec une place importante accordée aux restaurations récentes et aux œuvres rares. Plusieurs hommages sont prévus au cinéaste yougoslave Aleksandar Petrovic, au cinéaste Robert Bobert, à la cinéaste norvégienne Anya Breien, à Pierre Zucca, ainsi qu'à l'historien et archiviste Naum Kleiman, surnommé le Langlois russe. Et à plein d'autres choses encore, comme le studio Kadokawa au Japon et, ou la ville de Bruxelles. Comme chaque année, l'événement comprend aussi des temps de réflexion. Donc, le jour de l'ouverture a par exemple eu lieu une journée d'études consacrée au thème cinéma et écologie, réinventer la critique, interroger les pratiques. Enfin, les projections seront accompagnées de présentations, rencontres et de séances en présence d'invités, et notamment l'ouverture avec John Badham autour de War Games. Donc voilà pour les grandes lignes de cette 13e édition. Donc c'est un rendez-vous majeur pour tous ceux qui s'intéressent au patrimoine cinématographique et à sa mise en perspective contemporaine.
Très intéressant, trop bien, ça donne envie. Et on va continuer d'en apprendre sur ce festival avec maintenant notre interview d'Enzo Durand, qui a donc participé à la programmation du festival.
Bah, bonsoir à toutes et à tous. On est actuellement à la Cinémathèque pour le premier jour du festival. Je suis avec David et Juliette, que vous commencez à connaître. Tout le monde a la forme ?
Oui.
Je suis également avec Enzo Durand, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici pour une interview, pour discuter du festival et de sa programmation. Puisque Enzo, tu es critique de cinéma et tu as participé à la programmation de cette édition du Festival de la Cinémathèque, dont tu présentes deux séances de la cinéaste. Alors tu vas me dire comment ça se prononce ?
Anya Breien.
Vas-y.
Anya Breien.
Anya Breien, et sur lesquelles on va discuter. Comment vas-tu, Enzo ?
Super, je suis très content d'avoir reçu votre invitation et d'être là ce soir.
Trop cool. Bah, Juliette, on t'écoute pour la première question.
Oui, alors Merci Enzo d'avoir accepté l'invitation. Et donc, question très simple, qu'est-ce qui a motivé donc, la présence des deux invités d'honneur, Debra Winger et John Badham, à cette édition du festival?
Je dirais deux raisons en fait, très, très différentes. Il faut savoir que lorsqu'on fait la programmation du festival, les invités d'honneur, c'est vraiment la première chose qu'on recherche. Parce que ça va très vite donner une couleur à la programmation. On va un peu savoir de quoi vont être faits, quels vont être les principaux films qu'on va programmer. Et surtout, c'est souvent des personnalités qui attirent beaucoup de monde. Donc il faut qu'on le sache très vite. Pour John Badham, c'était en fait on avait à la fois l'envie de continuer quelque chose qu'on a fait les années précédentes, c'est-à-dire de montrer que certains grands noms du cinéma d'action américain, hollywoodien même précisément, sont à reconsidérer, peut-être qu'ils sont un peu plus que ce que le grand public pense. C'est ce qu'on avait fait avec John McTiernan, c'est là ce qu'on refait aussi avec Badham, en montrant à la fois une sélection de ses films. Une sélection voilà, qui vise à essayer de rendre compte de ce qu'a été sa carrière et en même temps en lui proposant une carte blanche. Pour Debra Winger, c'était très différent en fait. On avait envie, on essaie de souvent de faire ça, d'avoir des invités d'honneur très différents qui vont contraster l'un envers l'autre. Et pour Debra Winger, bon, je dirais qu'il y a deux raisons. À la fois, c'est une grande actrice. On avait envie de mettre en avant son parcours. Il y a une série de grands films dans lesquels elle a joué. Et puis surtout, elle a une histoire à raconter qui est assez exceptionnelle. C'était donc une actrice extrêmement populaire dans les années 80 et au début des années 90 qui a elle-même organisé sa propre disparition des plateaux de tournage pour des raisons qu'elle expliquera d'ailleurs pendant les deux masterclass. Pendant les deux masterclass qu'elle consacre à la Cinémathèque, et pour des raisons que vous pourrez aussi découvrir dans un film qui s'appelle À la recherche de Debra Winger, qui a été réalisé par Rosanna Arquette et qu'on a intégré à la programmation.
Magnifique. Eh bien, figure-toi que tu as aussi répondu à notre seconde question, puisque justement, on voulait te demander s'il y avait une ligne générale de programmation pour le festival, puisqu'on est déjà à la 13e édition et qu'effectivement, ça fait 3 éditions, qu'il y a des grands noms américains qui en sont les invités d'honneur. Et donc, on va, voilà, vu qu'on va extrêmement vite.
Le fait d'avoir des grands noms américains, c'est pas forcément quelque chose qu'on prévoit ou on veut pas uniquement des américains.
Okay.
Au contraire, on adorerait et on a d'autres noms en tête qui ne sont pas américains pour les prochaines années. C'est plus du hasard, c'est comme ça, c'est comme ça.
Okay.
Pour la ligne générale de programmation, je suis pas là depuis 13 ans, mais je sais que Pauline de Raymond, qui dirige le festival, que vous aviez interviewé l'année dernière ?
Non.
Non, je ne sais pas. Je fantasme des interviews. Pauline de Raymond, je sais que ce qu'elle dit souvent, enfin ce qu'elle nous dit souvent, c'est que voilà, il n'y a pas une ligne. En fait, en tout cas, il n'y a pas des règles de programmation. Elle ne se refuse rien. Et vous le voyez avec la programmation cette année, où il y a vraiment des choses très différentes, à la fois des cinéastes très connus, des films très attendus. Je pense aux Dunes de David Lynch. Ouais. Et en même temps, voilà, des cinéastes. On en a parlé et on en reparlera juste ensuite, mais comme Anya Breyen, qui sont des cinéastes à mettre en valeur.
Très bien.
Ok.
Juliette ?
Eh bien, justement, rebondissons encore une fois, puisque Anya Breyen a été mentionnée, donc c'est une cinéaste norvégienne qu'on découvre effectivement, et qu'est-ce qui, du coup, va vous apporter vers ce choix ? Et je vais enchaîner directement sur la question suivante. On a vu que, en fait, Anya Breyen, son œuvre, elle fera l'objet d'une rétrospective en 7 films qui sera ressortie le 6 mai par le distributeur Malavida. Alors, et dans le festival, il n'y a pourtant que 4 films qui sont présentés. Donc, quel est ce choix et pourquoi la sélection, elle s'est arrêtée sur ces 4-là ?
Bon, je vais répondre un peu à l'envers. Tout d'abord par la deuxième question. Parce que c'est la réponse est purement pratique. En fait, dans le festival, on est limité en termes de films qu'on peut choisir parce que la Cinémathèque n'a pas un nombre de salles illimité. On a 4 salles de cinéma qu'on utilise pendant le festival et que nos partenaires à l'extérieur, on ne peut pas non plus leur imposer trop de séances. Donc, le nombre de films qu'on propose est limité. Notamment, c'est une centaine de films cette année. Et on ne peut pas accepter, on ne pouvait pas programmer les 7 films. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû choisir On a réussi déjà à en proposer 4, ce qui est super, et ce qui, je pense, permet en 4 films de voir un peu à quoi ressemble l'œuvre d'Anya Breyen. Il y a à la fois ses films les plus célèbres qui sont Les Wives, une sorte de comédie à mi-chemin entre le documentaire et l'improvisation, enfin, c'est assez génial, et en même temps La Persécution qui est un drame historique beaucoup plus sérieux. Et donc on avait envie de montrer uniquement ces 4 là qui peuvent donner envie d'aller voir les autres lorsque ça sortira. Ça, c'était la deuxième. Et sur la première, sur pourquoi j'avais envie de présenter ces deux films,
oui.
Bon, en fait, immédiatement, c'est un peu moi qui ai... Enfin, immédiatement, j'avais envie de présenter ces films parce que c'est une cinéaste dont je connaissais déjà l'œuvre.
D'accord.
Notamment...
Enfin, tu l'avais découvert par toi-même.
Oui, et puis elle était... une partie de ses films sont passés cette année au Festival Lumière à Lyon.
Ah, oui.
C'est notamment aussi d'ailleurs ce qui a motivé notre, j'y repense à posteriori, mais ce qui a motivé aussi notre choix dans la sélection des films, c'est qu'on programme deux films qui n'étaient pas programmés à Lyon.
Oui.
Bon. Qui sont d'ailleurs les deux films qu'on programme à la Cinémathèque et non pas hors les murs. Non, mais donc voilà, donc il y a eu une sorte de regain d'intérêt à partir de Lyon à propos de cette cinéaste, et donc je me suis renseigné pour elle. Il se trouve qu'elle avait déjà eu une rétrospective il y a plus d'une dizaine d'années au Festival de La Rochelle, qui est un festival que j'aime beaucoup. Et donc j'avais envie immédiatement de présenter ces films. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, je pense, à propos d'Anya Breyen, c'est que, on l'a dit quand on discutait ensemble, elle est méconnue. Mais en fait, elle ne l'était pas tant que ça lorsqu'elle était en activité.
Okay.
Notamment, elle est passée par Cannes, elle est passée par Berlin. Entre 1965 et 2015, je crois, elle a même eu le seul film norvégien qui a été en compétition pour la Palme d'Or. Enfin, bon, voilà, elle avait une certaine réputation. Wives a eu un très grand succès en Europe. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est oubliée, alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Et donc, il y avait aussi quelque chose là qui m'intéressait, que j'avais envie de défendre et de... Voilà, j'avais envie de mettre en avant ces films.
Merci, du coup. Et question suivante. Passons plutôt à une autre partie du festival que la programmation des films en eux-mêmes. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la Winter School de la FIAF,
oui,
qui se tient aussi pendant le festival?
C'est ça. En fait, donc, la Winter School, ça existe depuis 10 ans. Ça a été aussi créé à l'origine par, encore une fois, décidément, Pauline de Raymond. voilà, qui en fait a voulu, donc la FIAF c'est le réseau des cinémathèques à travers le monde, et il y a beaucoup de ses membres qui venaient au festival, comme souvent dans les festivals de patrimoine, je pense à Bologne où il y a aussi beaucoup de monde qui se retrouve là-bas, et donc Pauline avait eu l'idée de créer des deux jours, donc la Winter School, pendant lesquels ses membres pourraient échanger des bonnes pratiques, des idées sur la programmation, sur la conservation des archives de cinéma, sur ce genre de discours. Et d'ailleurs, ça s'appelle Winter School, mais ce n'est pas à proprement parler des cours, c'est plutôt des échanges entre professionnels. Et donc cette année, comme tous les ans d'ailleurs, ça a lieu donc deux jours, enfin c'est les deux jours qui précèdent le festival. En l'occurrence, le festival commence aujourd'hui un mercredi, donc c'était le lundi et le mardi. Et ça permet donc à des programmateurs qui viennent d'une vingtaine de pays différents de se retrouver et d'échanger sur des sujets comme comment on programme aujourd'hui des films de patrimoine au Maghreb, comment on programme les 70 mm. On sait que le 70 mm devient de plus en plus recherché à la fois par le public et par les cinémas. Je pense à tous ces films, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, qui filment également en 70 mm. Il y avait aussi des sujets un peu plus techniques et qui intéressent beaucoup plus les membres de la profession, comme comment on arrive à clarifier des droits quand on veut organiser une rétrospective. Bon, voilà, des sujets qui intéressent principalement les professionnels, mais je pense que la Winter School, c'est vraiment un élément important du festival, parce que c'est aussi ce qui le fait rayonner à l'international et ce qui fait venir beaucoup de monde.
Okay.
Et justement, à propos de l'organisation d'un festival, est-ce qu'il y a une anecdote, une copie qui a été particulièrement difficile à trouver ou une restauration exceptionnelle pour ce festival?
Je peux prendre la main, je suis David, preneur de son sur cette interview. on a parlé avec Enzo avant l'interview, on s'est dit que j'avais une anecdote intéressante à raconter, à savoir que...
Il y a un film qui est programmé le dernier jour du festival, ce dimanche après-demain, La Prieuse étoile de Marcel Pagnol, qui est un film maudit et très célèbre, puisque Pagnol a très longtemps déclaré l'avoir détruit à coups de hache pour ne pas qu'il soit pris, pour ne pas qu'il soit pris et exploité par la Continental, qui était une compagnie à capitaux allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un film dont, dont des bobines ont été retrouvées seulement l'année dernière par un doctorant spécialiste de Pagnol aux archives du CNC. Et donc c'est, ce ne sont pas juste des chutes de tournage, mais c'est un pré-montage déjà donc partiel de La Prieure étoile, qui devait être une trilogie. Et le film est programmé du coup en version restaurée pour une première, je crois, ou presque quasi première à Paris au moins, ce dimanche. Donc on a très très hâte, quoi.
Et surtout, ce qui est super avec cette séance, c'est que pour nous, ça vient en quelque sorte conclure une rétrospective Pagnol pendant laquelle on n'avait pas pu programmer ce film, donc c'était un peu le chaînon manquant. Et donc là, avec ça, on ferme un cycle. Et ça me fait penser aussi à une, puisqu'on parle de copies un petit peu rares, on va programmer une version très rare d'un film qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle Nanook l'Esquimau. Oui. Et il y a une version vraiment... introuvable, qui s'appelle, nous en tout cas on appelle ça comme ça à la Cinémathèque, la copie Bouton d'Or. En fait, c'était Henri Langlois, donc fondateur de la Cinémathèque, qui l'appelait comme ça parce qu'elle a un teint un peu orange. Et donc cette copie va être, enfin elle a été numérisée et elle va être programmée pendant le festival, ce qui pour tous les fans de copies rares et d'archives est un petit peu un événement en tout cas.
Okay. Génial.
Trop bien.
Ben. Est-ce que, du coup, ça répond peut-être déjà à notre question suivante. Quel est le film restauré ou redécouvert de cette édition 2026 du festival qui te tient le plus à cœur, si c'est pas Nanook l'Esquimau, et pourquoi?
C'est horrible de demander ça à quelqu'un qui fait partie de l'équipe de programmation. C'est comme si on devait choisir entre ses enfants.
C'est un peu ça.
Non, mais je vais rester très corporate et je vais vous parler de films qui ont été aussi restaurés par la Cinémathèque, puisque la Cinémathèque française a aussi cette activité. Je pense à un film qui est très demandé en plus, qui s'appelle Pierre ou les ambiguïtés. En fait, donc, Pierre ou les ambiguïtés, petit cours d'histoire, c'est la version télé du film Paula X de Léos Carax. Le film Paula X, c'est un film qui a reçu un accueil un peu mitigé par la critique, en tout cas au moment de sa sortie. Ça a signé un peu la rupture entre Carax et la critique. Et il y a eu une version donc, télé donc, qui s'appelle Pierre ou les ambiguïtés, qui rajoute vraiment beaucoup de durée au film. Je sais pas, j'ai un doute sur la durée, je crois que il fait presque 3 heures, c'est ça. Et ça le rend aussi beaucoup plus riche, beaucoup plus complet. Et en fait, ça change totalement notre vision du film. Et cette version télé, elle est quasiment introuvable. Et donc beaucoup de cinéphiles, qui en plus adorent Carax, parce que Carax a un peu une aura, enfin, en tout cas il est très connu, n'ont jamais pu voir cette version. Et il se trouve que cette version, on va non seulement la montrer, mais en plus on l'a restaurée. Donc on l'a restaurée en accord avec Caroline Champetier, qui travaillait également avec Carax. Et donc ça, voilà, je pense que ça va être vraiment une séance très importante. Bon, film de 3 heures, pas très simple, mais voilà, film exceptionnel et restauré. Toujours sur Carax, il se trouve que au moment où on enregistre cet entretien, dans une heure à peine, on va aussi diffuser en amont de la séance d'ouverture du festival un court métrage de Carax extrêmement rare qui s'appelle Sans titre. Et voilà, donc on sait décidément, c'est une année Carax, et en plus ce sera en sa présence pour Pierre ou les ambiguïtés. Et j'avais donc une autre restauration, pardon, Cinémathèque, pour toujours rester. Voilà, très, très business. Donc c'est Les cinéphiles 1 et 2 de Louis Skorecki. Donc Louis Skorecki, donc c'était un très grand critique qui écrivait à Libé, qui avait le sens de la polémique, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et qui a réalisé également une trilogie qui s'appelle Les cinéphiles. On a restauré donc pour le moment uniquement les deux premiers films, et on va montrer les deux premiers films l'un après l'autre en présence de Skorecki, qui parlera longuement de ces films. Et je ne sais pas si vous les avez vus.
Non.
Mais on vient samedi.
C'est super. Mais en fait, c'est des films très étonnants qui sont un peu cyniques, en tout cas, sur la vision des cinéphiles. Et en même temps, je pense que c'est vraiment des films qui peuvent faire beaucoup rire des cinéphiles parisiens. Parce qu'il y a vraiment un truc où on reconnaît les lieux dans lesquels sont ces personnages. Enfin, ça a été filmé dans des cinémas du quartier latin. Et on reconnaît aussi certaines de leurs réactions. Et je peux pas m'empêcher devant les films de me dire, ça me fait tellement penser à un tel ou un tel parmi mes amis. Alors que pourtant, c'est assez moqueur et assez ironique. Mais voilà, donc je pense que ça va vraiment être des très belles séances. Et en plus, les restaurations sont magnifiques, donc c'est l'occasion de les découvrir.
Super.
Trop bien.
Et on peut parler peut-être plus du public, oui, pour terminer. Et du coup, bon, tu l'as dit, tu n'es pas à la Cinémathèque depuis 13 ans, mais est-ce que tu vois quand même une évolution du public de la Cinémathèque entre, enfin, le public habituel de la Cinémathèque et le festival ? Notamment sur l'attractivité des plus jeunes ou d'un autre public, quoi.
Bien sûr. Bon, oui, on le voit, en fait. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui pendant toute la première journée du festival. Je dirais qu'il y a deux évolutions pendant la période du festival en comparaison du reste de l'année. Déjà qu'il y a une activité qui est beaucoup plus soutenue, beaucoup plus condensée, à la fois du côté de la programmation, vous avez vu une centaine de films, du côté de l'action culturelle, tout est présenté, il y a énormément de débats, enfin voilà, c'est l'occasion de discuter avec beaucoup de gens. Et on remarque deux choses. Premièrement, ça fait venir énormément de monde. Mmh. Et deuxièmement, ça fait aussi venir énormément de jeunes. Il y a à la fois des jeunes qui viennent de eux-mêmes, qui sont cinéphiles, qui parfois sont là le reste de l'année et qui là viennent à un rythme plus soutenu. Mais il y a aussi un public qu'on ne voit pas tout le temps le reste de l'année, qui est pourtant un public extrêmement important, qui est les scolaires. En fait, il y a des étudiants qui viennent de collège, de lycée, qui viennent tous ensemble voir les séances, voir des films qu'ils n'auraient pas vus peut-être habituellement. Et ça, c'est un public qui à la fois nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est l'occasion aussi de leur faire découvrir des cinéastes dont ils n'auraient peut-être pas entendu parler sans la Cinémathèque. Et pour nous, voilà, de partager aussi, ce qui est toujours le plus important, de partager notre amour des films, tout simplement.
Okay.
Et du coup, vous les avez en tête dans la programmation, et il y a des séances fléchées pour les scolaires ?
Non, en fait, mais c'est ça qui est super. C'est que, en fait, non, quand on fait la programmation, on l'a un peu en tête et on espère qu'ils vont aller à telle ou telle séance.
Ouais.
Mais on leur laisse totalement le choix. Et c'est les professeurs, souvent, qui choisissent ce qui semble le plus intéressant pour eux. Et ensuite, nous, on fait simplement en sorte qu'ils aient la place de venir tous ensemble. Non, mais ils ont le choix, ce qui est vraiment une super idée.
Trop bien. Et par contre, dans la programmation, il y a des séances spécifiques pour le public jeune, avec notamment des séances à 1 euro. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et nous en parler un peu ?
Oui. En fait, c'est un système qui a lieu tout le reste de l'année. Donc, c'est des séances qui sont à 1 euro pour les moins de 26 ans.
OK.
Et donc il y en a dans chaque rétrospective, n'hésitez pas, tout est inscrit sur le site internet. Et ces séances, vu que, encore une fois, le rythme est plus soutenu pendant le festival, et pendant le festival il n'y en a pas une seule, mais il y en a quatre.
Okay.
Au moment où ce programme passera, il en restera deux. C'est ça. Donc il restera Sailor Suite and Machine Gun de Shinji Somai et La Persécution, décidément on y revient, d'Anya Breyen. Bon, ce que je peux vous dire sur ces séances, donc ces séances, nous, on les choisit en tout cas, c'est des films, voilà, qu'on se dit que ces films-là peuvent à la fois plaire à un public plus jeune, et en même temps, c'est aussi, on se dit, voilà, que ça peut éveiller un intérêt pour des cinéastes en général. Notamment pour Brienne, encore une fois, on se dit, voilà, s'ils aiment ce film-là, pardon, peut-être qu'ils iront voir les autres à la ressortie, peut-être que ça les intéressera, ainsi de suite. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que les séances qu'on met à moins de 1 euro pour les... ça serait difficile, à 1 euro pour les moins de 26 ans, c'est important aussi que ce soit des séances qui sont présentées, pour montrer la Cinémathèque aussi sous son meilleur jour, avec à la fois une analyse d'un expert de l'œuvre d'un ou d'une cinéaste.
Trop bien. Merci beaucoup, Enzo.
Merci à vous.
Quanon, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi tous les deux mois à 19h sur le 93.9 FM.
C'était notre interview d'Enzo Durand à la Cinémathèque française. Donc il y avait un peu de réverb, une ambiance un peu sacrée, mais voilà, digne de la Cinémathèque et de son festival. Et figurez-vous qu'après toutes ces réponses et tout ce qu'on a appris sur le festival de la Cinémathèque française, on fait maintenant une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite sur le 93.9 FM. À tout de suite.
qua non, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi, tous les deux mois, à 19h, sur le 93.9 FM.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM et vous écoutez Ciné qua non. Ce soir, on discute de la 13e édition du Festival de la Cinémathèque française, qui est toujours en cours jusqu'à ce dimanche. Vous venez d'entendre le morceau Behind the Mask du légendaire groupe japonais Yellow Magic Orchestra, dont fait partie Ryuichi Sakamoto, qui nous a quittés en 2023. Et d'ailleurs, un ultime concert a été filmé et était passé au Reflet Médicis il y a un peu plus d'un an. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir, Juliette, David ?
Non.
Bah, en effet, assez peu de personnes sont allées le voir. Moi-même, j'y suis allé avec une amie et on était absolument seuls dans la salle. Et on fait partie des 633 personnes qui sont allées le voir en France. Voilà. Et c'était vraiment, vraiment mauvais, par ailleurs.
Oh mon Dieu!
Donc bon, voilà. Mais pour le Festival de la Cinémathèque, maintenant, on va discuter, on va parler un peu des films qu'on a vus, de ce qu'on en a pensé. Et notamment de War Games, qui est un film qu'on a vu toutes et tous ensemble, qui était le film de la cérémonie d'ouverture. Ouais. David, est-ce que tu veux nous présenter rapidement le film? Et ensuite, Juliette, tu pourras nous partager ton avis.
Oui, tout à fait. Bah, en effet, on l'a vu à la séance d'ouverture, qui était un moment un peu important, parce qu'on présentait les invités d'honneur aussi, et notamment John Badham, le réalisateur du film. Pour vous dire ce que c'est que War Games, c'est un film américain de John Badham. C'est l'histoire de David Lightman, qui est joué par Matthew Broderick. Vous connaissez peut-être cet acteur, puisqu'il joue Ferris Bueller dans le film de John Hughes, notamment, dans La Folle Journée.
J'avais adoré ce film quand j'étais petit.
Et là, c'est encore un lycéen, mais c'est un lycéen un peu geek, féru d'informatique, qui, en piratant par curiosité un système qu'il croit ludique, donc un ordinateur, il accède en réalité à un supercalculateur militaire. Pensant lancer un simple jeu de stratégie qui s'appelle Thermonuclear War ou quelque chose du genre, il enclenche à distance des simulations de guerre nucléaire prises au sérieux par l'armée. Et il doit empêcher que la machine ne transforme la partie, le jeu, en véritable conflit mondial.
Juliette, qu'est-ce que tu as pensé du film ?
Alors, déjà assez surprise du film parce que, en fait, avec un titre pareil, je ne m'étais pas imaginé ça. J'ai trouvé ça OK. Pas un grand film. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement et qu'il y avait des gestes de cinéma intéressants parce qu'on a le personnage principal. Le film commence quasiment là-dessus. Il est en train de jouer sur une borne d'arcade et il est en retard à l'école. Mmh. Et il court et il arrive in extremis jusqu'à ce que... Non, il arrive en retard en cours. Enfin bref. Mais il se glisse dans une porte. Et il y a plusieurs moments comme ça dans le film où ça revient, où il est toujours in extremis et il passe à travers des portes qui sont sur le point de se fermer. Donc on a une notion d'urgence comme ça et qui arrive en apothéose à la fin du film puisque l'urgence c'est littéralement la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Je trouve ça intéressant et aussi l'utilisation des objets technologiques donc de l'époque puisqu'on est en 83. On a le téléphone, on a l'ordinateur, beaucoup de téléphones. Et c'est des machines qui sont encore un peu crédibles, enfin qu'on peut démonter, qu'on peut, on appuie sur un bouton et ça les met en route, mais on peut les arrêter, on peut les débrancher. Et c'est des machines simples, alors que y a un penchant qui se fait avec donc ce super calculateur qui est une sorte de machine complexe, intelligente, autonome et qui fait penser maintenant. À notre époque, à l'intelligence artificielle, mais il y a cette opposition-là, et on voit à un moment le personnage de David qui démonte un téléphone. Enfin, il y a quelque chose de ce nouveau rapport à la technologie qui est en train un peu de nous dépasser. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que le film a été choisi en cérémonie d'ouverture, c'est qu'il y a ces points d'intérêt et qui résonnent avec l'actualité. Mais en fait, ce que je lui reproche quand même, c'est que malgré tout cet esprit et toute cette envie de parler du rapport à la guerre, de pourquoi on entre dans un conflit mondial et pourquoi c'est pas très bien de faire la guerre, en gros. Tout ça est désamorcé par énormément de personnages et il y a beaucoup de personnages comiques et caricaturaux. Et en général, d'ailleurs, tous les adultes dans le film le sont parce que les agents du FBI, les gens qui travaillent au gouvernement, ils sont tous un peu pataux. Il y a le général, le cliché absolu du général bourrin avec son gros cigare qui est juste là pour appuyer sur des boutons et lancer des missiles. Enfin, les parents sont hyper naïfs et du coup, je trouve que ça désamorce complètement le propos qui aurait pu être intéressant pour l'époque. Voilà.
Puis le propos se perd un peu, puisque finalement, on a l'impression que le propos, c'est une espèce de critique aussi de la technologie, des risques que ça représente, etc. Et en même temps, le gros général, il est censé représenter... Enfin, lui, il est contre cette technologie. Mmh. Et en même temps, c'est évidemment quelqu'un de détestable. Donc, ça se perd à plusieurs endroits. Bon, voilà, moi, pour ma part, j'ai trouvé le film assez faible. C'est vrai que la concordance avec l'actualité était quand même assez folle. Enfin, voilà, quelques jours après qu'on ait beaucoup parlé de Claude, des questions aux États-Unis en particulier, de l'usage de l'IA dans la guerre, etc. C'était un écho intéressant. Mais sinon, moi non plus, j'ai pas été convaincu par le film. La prestation d'acteur de Broderick, c'est... C'est assez extraordinaire.
Je pense qu'on ne se souviendra pas comme le plus grand acteur des années 80.
Franchement, c'est... Voilà. Mais sinon, oui, moi aussi, j'ai trouvé le film divertissant. Mais enfin, bon, voilà, je te rejoins que j'ai pas vu ce qu'on était censé y voir de plus qu'un film américain divertissant.
Ben, je vais dans ton sens, Grégoire, et film américain divertissant. Enfin, voilà, faut retenir qu'on est en 83. Spielberg a déjà fait ses blockbusters, et voilà, Badam, il vient après, à savoir dans le sillage du blockbuster avec un réalisateur qui fait un peu ce qu'on lui demande de faire dans la recette du film la blockbuster pour toute la famille et notamment les jeunes. Enfin, tu disais Teen Movie, je crois, Juliette. Donc voilà, enfin, c'est des enjeux pour dans un cinéma pour adolescents. Oui. Et peut-être, et Dieu sait que j'aime les adolescents aussi, et quand j'aimais les films dès l'adolescence, mais c'est moins du cinéma pour adultes que ce que propose le cinéma américain des années 70, 60, 50 ou 40 auparavant sur des enjeux similaires technologiques, par exemple. Quoi. On pense au film de Robert Aldrich en 4e vitesse qui parle de la guerre nucléaire. Je trouve que c'est tout autre chose. Quoi.
Ouais.
Mais sinon, bon, j'ai parfois souri pendant le film aussi parce que c'était aussi gros que l'Amérique de Reagan, à savoir un peu grossier, mais en même temps assez impressionnant de naïveté. Et j'ai utilisé l'expression après le film en me disant que c'est un peu un film Disney Channel, à savoir des aventures des petits jeunes, des méchants cartoonesques, des choses comme ça. Quoi.
Moi, il me fait penser, on en parlait aussi, il me faisait penser à Starship Troopers, mais Starship Troopers lui met une belle distance quand même. Mais...
Oui, ouais.
Voilà, il y avait des choses en commun, mais...
Bah ouais, c'est un peu ça le souci, quoi. C'est que tous les films auxquels il fait penser, il est moins bien, donc...
C'est dommage.
Voilà, mais il y avait un autre film pendant la cérémonie d'ouverture. Un film, est-ce que Juliette, tu veux nous dire ce que c'est ?
Très très rare, donc ça s'appelle sans titre, mais je pense que c'est volontaire. Un film de Léos Carax, donc de 97. Et je crois que c'était sa première diffusion en salle, si je ne m'abuse. Ou peut-être pas, enfin bref. Très très rare, un court-métrage de Léos Carax qui est un film-essai qui vous fera peut-être penser à C'est pas moi, son dernier film qui était un moyen-métrage de 42 minutes. Il y a un côté très histoire du cinéma de Godard, montage avec de la musique, des mélanges tirés d'images de films et des gros textes, des grosses lettres qui apparaissent, enfin... Ça, ce côté-là, mais Enzo Durand nous disait que c'était un film qui était en lien avec Paula X. Donc, je pense que c'est un des films les plus étranges de Carax, qui n'est pas très aimé, qui, comme disait Enzo Durand, a beaucoup divisé la critique. Mais voilà, et c'était aussi en lien avec, avec ce film-là, en fait. Donc, il y avait des moments du film qu'on pouvait deviner si on connaît un peu le cast, notamment Guillaume Depardieu.
Et Paula X qui a un lien avec la programmation du festival.
Ouais, puisqu'il y a sa version télé, Pierre ou les ambiguïtés, qui passait hier.
Ouais.
Et pour boucler la boucle sur Sans Titre, j'ai lu qu'il a réalisé Sans Titre en fait dans la perspective de trouver un financeur au Festival de Cannes.
Ah oui,
donc
ça.
Il voulait un peu faire une démonstration de force et montrer de quoi il était capable un peu artistiquement pour trouver de l'argent ensuite pour faire... Du coup, j'imagine Paula X qu'il avait commencé. Enfin voilà, j'ai pas tous les détails, mais c'était un projet comme ça. Pour trouver de l'argent.
Et après, je sais plus si Enzo Durand l'a dit pendant l'interview ou en off, mais bon, il y avait eu un épisode consacré à Bologne il y a quelques mois que vous avez peut-être écouté de notre émission, et il y a des liens de programmation quand même entre Bologne et ce festival de la Cinémathèque, puisque ce sont deux festivals de films restaurés, etc. Et il y a d'ailleurs plusieurs films qu'on a eu la chance de voir à Bologne qui ont été programmés cette année au festival de la Cinémathèque. Notamment Le Maître du Logis de Dreyer, par exemple. Et il y a aussi le film Tri, qui est un film de Petrovic, où il y a, avec tout un cycle consacré à ce réalisateur, que j'avais vu par hasard à Bologne il y a 2 ans, je crois, qui était absolument magnifique. Et hier, avec David, on a vu un autre film de ce même réalisateur qui s'appelle Elle et lui.
Oui, oui, je peux rajouter. Donc, Alexander Petrovitch, c'est un réalisateur yougoslave, enfin, et qui a de forts liens avec la France aussi, donc des années 60, 70, 80. Et c'est l'un des plus grands représentants de ce qu'on appelait la Black Wave dans le cinéma yougoslave, donc la nouvelle vague noire, entre guillemets, du cinéma. Et là, elle et lui, c'est son premier film. Et ça se passe à Belgrade. Et c'est une histoire très, très, très simple de elle et lui. Et un homme et une femme qui se rencontrent, un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent à Belgrade dans les années 60. Et sur fond de musique jazz à la mode, bah, ils se draguent, ils se donnent des rendez-vous, ils vivent une histoire d'amour. Et c'est à peu près tout ce qui se passe, malheureusement. C'est un film, quand il a commencé, je ne sais pas toi Grégoire, mais j'étais cueilli par le charme, complètement.
Moi aussi, enfin, tout à fait.
C'est un hommage à la ville de Belgrade en Serbie. La musique est toujours magnifique et oui. c'est un film musical. Enfin, il y a plus de musique que de dialogue, je crois.
Oui, et la musique est effectivement très belle, et ce pendant tout le film.
Donc voilà, beaucoup de styles différents, à la fois des choses façon yéyé, des trucs jazzy, enfin voilà, pas un mauvais moment à passer.
Du tout, surtout que le film est généreux, il y a quand même plein d'effets de mise en scène, voilà. Mais à choisir, je recommanderais vraiment Tri, qui m'avait énormément plu, et voilà.
Eh bien, tu tombes d'accord avec la personne qui a écrit Notule des cahiers sur Petrovitch il y a 40 ans dans les cahiers du cinéma, qui préférait Tri à elle et lui déjà.
Bah voilà, un grand honneur. Et hier soir, vous, Juliette et David, vous avez vu un autre film oui. ensemble. C'était quoi, Juliette ?
C'était Chacun sa chance de Karel Reich. C'était son dernier film, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était une séance pour laquelle il n'y avait plus de place. Enfin, on n'avait pas d'invitation. Et on s'était dit, bah, on ne va jamais réussir à y aller. C'était un film en 35 mm qui fait donc partie de la rétrospective d'Ebra Winger. Et on a réussi à avoir des places. Donc ça, c'est toujours un plaisir d'avoir une place in extremis dans un festival. Et donc c'est un film sorti en 90 qui se passe dans le Connecticut, et c'est un film très curieux. Enfin, on n'a pas arrêté de se regarder pendant le film et de rire à des moments pas à propos, parce qu'en fait c'était très décousu. Et enfin, le personnage de Debra Winger, il y a des moments de profondeur et des moments vraiment sincèrement touchants où on comprend que c'est, en gros, sans vous trop divulgâcher, c'est un personnage qui va assez mal. Mais comme ses actions sont très chaotiques et qu'on a du mal à se raccrocher à quelque chose parce qu'en fait sa psyché n'est pas du tout creusée, ben, ça en fait un personnage finalement assez distant de nous, et on a du mal à rentrer dans le film et à saisir exactement les enjeux, alors que pourtant on est sur une enquête, on est sur des thèmes de corruption d'une petite ville. Enfin, il y a des choses très claires et voilà, mais je sais pas, le film est raté, et c'est étrange de voir des films ratés des fois parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tout à fait. Il y avait une ambiance très bizarre aussi, un peu à la Twin Peaks, quoi, avec à la fois dans la musique, dans la drôlerie de ce qui se passait, alors qu'il y avait des choses tragiques et des meurtres avec des couteaux, des choses comme ça. Et en même temps, voilà, on comprenait pas, ça partait dans tous les sens. Debra Winger, à chaque scène, avait un caractère et une personnalité différente. Alors, pour faire très court et pour conclure, scénario de Arthur Miller, connu pour être dramaturge, ancien mari de Marilyn Monroe, et il paraît du coup que le rôle est à l'origine inspiré du personnage de Marilyn Monroe, qui était une personne instable aussi dans son couple avec Arthur Miller. Film intéressant, curiosité, pas totale réussite, mais bon, je suis content de l'avoir vu.
Voilà, ça c'était notre petit tour de table sur le festival, et on va maintenant pouvoir passer à la chronique de David.
La chronique de David.
Il me semble, David, que tu as voyagé en février.
Oui, Grégoire, il te semble bien. J'ai parcouru les salles européennes en février, entre Berlin, Budapest et Bucarest, pour me faire une idée de ce qui se passait pour le cinéma de patrimoine européen en 2026. Donc tout ça pour Cinequanon, notez l'engagement quand même. Tout d'abord, Berlin, où la Berlinale, grand festival de cinéma européen, propose deux sections de films anciens. Donc d'un côté, la rétrospective Lost in the 90s, qui retraçait la fièvre culturelle et politique de l'après-chute du mur, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, mais notamment du coup en Allemagne, en explorant Berlin comme épicentre des mutations des années 90, des contre-cultures, des fractures Est-Ouest, etc. Et je retiens un film qui s'appelle Berlin, Bahnhof Friedrichstrasse 1990, je le dis en français, qui est un documentaire sur les derniers jours du poste frontière de la gare ferroviaire de trains de banlieue et de longue distance de Berlin de Friedrichstrasse. Et j'étais assez ému des témoignages des Est-Berlinois, qui étaient assez contents du changement de régime, mais très conscients des problèmes et défis à venir dans la nouvelle Allemagne réunifiée. En parallèle, dans la il y avait une section Berlinale Classics qui proposait une série de films restaurés, un peu comme ce qu'on a à la ciné là en ce moment, dont l'un des événements fut la redécouverte du chef-d'œuvre de Pabst, Geheimnisse einer Seele, Les secrets d'une âme, un film muet de 1926. Alors le film était présenté dans une restauration neuve et il rendait un peu toute la puissance avant-gardiste du Berlin des années 20 qui était un centre mondial du cinéma à l'époque. Et alors il était accompagné d'une nouvelle musique et d'un dispositif scénique très innovant, même si à mon avis un peu limité dans son intérêt artistique, à savoir qu'il transformait, il y avait des néons autour de l'écran qui en temps réel transformaient l'activité neuronale d'une musicienne en lumière au-dessous et autour de l'écran. Donc c'était étonnant. Et je peux dire un mot aussi peut-être sur la sélection du nouveau festival ou non. J'ai vu pas mal de films nouveaux aussi, donc dans la compétition comme dans les sections parallèles. C'était assez faible, donc je suis heureux d'avoir eu de belles consolations avec les rétrospectives de patrimoine. J'enchaîne avec mon passage ou même mon pèlerinage à Budapest. Donc, dans l'attente de mon train de nuit pour la Roumanie, j'ai pu découvrir le cinéma Urania, exemple typique de l'architecture Mitteleuropa fin 19e, audacieux mélange de style néo-mauresque et vénitien. Le cinéma fonctionne comme une institution publique et diffuse aussi bien des films anciens du patrimoine hongrois que des nouveautés. Il y avait notamment une rétro de la réalisatrice Idilko Enyedi qui avait lieu lors de ma venue et une rétrospective qui aura son pendant à la Cinémathèque française au printemps prochain. Enfin, passage à Bucarest, où je tenais à vous donner quelques impressions de la Cinémathèque nationale également, institution dépendant des archives du film. Donc elle est dans une zone peu visible d'une rue perpendiculaire à l'un des principaux boulevards de la vieille Bucarest, et c'est là que se trouve la Cinémathèque Efori, grande salle à balcon des années 30, qui bien qu'ayant des sièges assez neufs, est restée comme dans la naphtaline depuis qu'elle abrite la programmation de la Cinémathèque nationale depuis 1982. Donc c'est vraiment une expérience à part entière que d'aller là-bas voir un film, parce que très peu de locaux la connaissent, et on peut facilement la rater tant elle est bien cachée. Et en entrant, le personnel et le mobilier semblent inchangés, comme si l'esprit pré-89 entrait hanter encore les lieux. Donc ça a de bon côté, puisqu'elle propose des séances les moins chères de la capitale, à 3€ le plein tarif. Lors de ma venue, la programmation, c'est un peu la programmation habituelle, à savoir que la Cinémathèque programmait en alternance des films américains d'un catalogue de classiques auxquels elle a accès, et des films roumains de ses collections, des raretés absolues, des films de studio de l'époque communiste notamment, quoi. Pas tous des chefs-d'œuvre, mais assurément des curiosités pour le bonheur des cinéphiles. À l'image des institutions culturelles de cette région du monde, la Cinémathèque, elle rencontre pas le succès qu'elle mériterait d'avoir, à mon avis, et elle souffre de son budget assez ridicule et de sa gestion un petit peu artisanale. Musique. Tant que la Cinémathèque à Efori vivra, Bucarest demeurera toutefois une ville accueillante et passionnante pour les cinéphiles roumains comme du monde entier. Donc sur ce, je vous laisse avec un tube de variété typique de la Bucarest du XXe siècle, Căsuța Noastră de notre petite maison, interprété par Gico Petrescu.
Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță-n glastră, înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuib ușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-ntâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat.
Quanon, le rendez-vous cinéma de Radio Campus Paris. Un vendredi tous les deux mois à 19h sur le 93.9 FM.
On vous a dit que l'émission ce soir était réalisée par Pablo, qui est bénévole au cinéma La Clé, dont on se réjouissait de la réouverture lors de l'épisode dernier. Et Juliette, tu vas nous parler d'une autre actualité de salle, malheureusement un peu moins réjouissante.
Oui, hélas. Puisque, comme vous le savez, donc, La Clé a été sauvée par le rachat par l'association La Clé Revival qui l'exploite désormais. En parallèle, peut-être que vous en avez entendu déjà parler, le Luminor Hôtel de Ville, donc le dernier cinéma du 4e arrondissement de Paris, est aussi menacé de fermeture. C'est en 2022 qu'on en a entendu parler pour la première fois. Et tout comme La Clé, en fait, les propriétaires du Luminor ne souhaitent pas renouveler le bail locatif du cinéma. Donc depuis que la nouvelle est connue, les employés du cinéma ont monté une association qui s'appelle Luminor Résiste, qui organise des soirées de soutien à la salle de cinéma. Donc c'est souvent des soirées festives parce qu'en fait il y a un bar là-bas et vous pouvez adhérer en ligne, vous avez un verre offert je crois. Et c'est des soirées qui n'ont pas pour but de récolter des fonds mais plutôt de réunir le public autour de films souvent de beaux films souvent connus mais qui font plaisir à revoir. Et souvent avec des invités et des discussions, mais c'est aussi surtout de sensibiliser le plus grand nombre à la défense du Luminor. Et donc le 12 mars, c'était hier, a eu lieu l'audience de rendu de jugement qui donnait le montant de l'indemnité d'éviction du cinéma. Donc en fait, c'est presque déjà trop tard. Et les employés du Luminor vont sûrement faire appel de cette décision, ce qui leur offre un sursis de quelques mois encore au cinéma avant sa fermeture, donc très probable et malheureusement définitive. Peut-être que vous avez été dans des cinémas indépendants récemment, mais il y a un carton avant les séances qui passe pour sensibiliser aussi à la fermeture du Luminor. Donc il reste un mince espoir que les élus locaux fassent pression sur le propriétaire afin qu'il révise sa décision. Affaire à suivre donc. Et en attendant, n'hésitez pas à vous rendre au Luminor pour vous renseigner et juste pour aller voir des films dans le dernier cinéma du Marais.
Merci beaucoup Juliette, et merci aussi David pour ta chronique. Il est déjà presque l'heure de se quitter, mais comme le Festival de la Cinémathèque dure encore, on vous propose d'y retourner juste pour partager les films qui nous donnent envie dans les jours qui restent. Juliette, toi c'est quoi le film qui te donne le plus envie?
Alors, il y en a deux, mais il y en a un, je vais te laisser en parler Grégoire parce qu'on va le voir ensemble. Donc c'est L'évaporation de l'homme de Imamura Shoei, donc j'en dis rien de plus, j'ai juste très hâte. Et l'autre film, c'est un film que je vais voir dimanche, c'est Till We Meet Again de Frank Borzagli, qui est un film de 1944, qui est un mélodrame. Et il y avait une rétrospective Frank Borzagli il y a quelques mois à la Cinémathèque, et les quelques personnes dans mon entourage qui sont allées à cette rétrospective m'ont dit que Till We Meet Again était vraiment le film à voir. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça a l'air très très bien, donc j'ai hâte.
Trop cool. Et toi David ?
Plein de choses aussi. Une chose qu'on n'a peut-être pas mentionnée dans l'interview avec Enzo Durand, c'est Naum Kleiman, je disais en introduction, qu'on surnomme le Henri Langlois russe, qui est un vieux monsieur qui a beaucoup œuvré aux archives du cinéma, enfin aux archives et à la préservation des films du patrimoine soviétique, qui présente encore samedi et dimanche deux films, notamment Que vive Mexico, le film maudit de Eisenstein, et Ivan le Terrible en 35 mm à la Filmothèque, donc le dernier chef-d'œuvre de Eisenstein.
Trop cool. Et donc ouais, moi comme le disait Juliette, le film que j'attends le plus pour ma part, c'est L'évaporation de l'homme de Shoei Imamura, qui est, tous les films que j'ai vus de lui, c'était extraordinaire. Il y a quelques années, ça commence à remonter longtemps, il y a eu une rétrospective intégrale de Shoei Imamura que j'ai ratée malheureusement, et ça reste une blessure sanguinolente. Mais c'est la séance, elle est samedi à 17h et je peux que vous recommander très très chaudement d'y aller. C'est une sorte de docu-fiction sur un phénomène assez courant au Japon de disparition d'hommes en particulier. Voilà, du jour au lendemain, des gens qui disparaissent. Et c'est un docu-fiction à ce propos qui s'annonce absolument passionnant. C'est maintenant la fin de cette émission. On remercie Béatrice Fidalgo et Solène Saïd pour l'organisation du partenariat avec la Cinémathèque française et donc le festival, pour les invitations aux séances et la mise en lien avec Enzo Durand, qu'on remercie d'ailleurs également à nouveau. Et on se quitte avec une dernière musique. Juliette, qu'est-ce que c'est cette musique?
Alors c'est, vous la reconnaîtrez peut-être, c'est Every Planet We Reach Is Dead de Gorillaz. Dans l'actualité en fait de la sortie de leur dernier album. Moi c'est une de mes musiques, chansons préférées d'eux et voilà. Et je suis en train de me refaire tout Gorillaz, donc c'est pour ça.
Trop chouette. Courez en salle et à la prochaine. We'll be right back.
on bed, a head to man. I love the girl, but God only knows it's getting hard to see the sun coming through. Big glow.